le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort. Ce Code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Seule une loi solennelle disant la volonté du peuple français pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France, fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime était un crime contre l'humanité et en fait elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité.
La députée de Guyane, Christiane Taubira, en 1999, défendant sa proposition de loi pour la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, projet de loi ou proposition finalement adoptée en 2001. Retour aujourd'hui sur une longue histoire pleine de raccourcis et d'angles morts, celle de l'esclavage à travers une série documentaire qui retrace l'histoire de cette tragédie sur les routes de l'esclavage en 4 épisodes. Première diffusion ce soir sur Arte à 20h55. On en parle avec Fanny Glissant, co-réalisatrice et productrice de cette série. Après Karen Blixen, Le songe d'une nuit africaine, c'était en 2017. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est une histoire de famille déjà. Petite nièce du célèbre poète de la cause noire, Édouard Glissant. Est-ce que ça a compté aussi pour vous?
Je pense que ça compte forcément. Je crois qu'on était dans une espèce de bain culturel qui fait que Aimé Césaire, Louis d'Ontran, Damas étaient des lectures qui étaient posées assez vite sur nos chevets. Et évidemment, tous les essais faits par Édouard ont contribué à l'élaboration de cette série. Mais je crois aussi que c'est mon parcours d'historienne qui m'a amené à m'intéresser plus particulièrement à l'esclavage.
Et c'est peut-être aussi une affaire de famille par ces non-dits. Le jour de l'avant-première, vous aviez raconté que vous êtes à la fois descendante d'esclaves et de maîtres, des origines longtemps tues. C'est dire à quel point cette histoire est méconnue, avez-vous ajouté. On y jette un voile pudique, tant du côté des afro-descendants que du côté des anciens maîtres. À vos côtés, l'historienne Catherine Kokri-Vidrovitch. Bonjour.
Bonjour.
Conseillère historique de ce documentaire, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite à Paris Diderot, auteur des enjeux politiques de l'histoire coloniale parue chez Agone en 2009 et aussi de Être esclave en 2013 à la découverte. Votre nouvel ouvrage, Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines du 5e au 20e siècle, paraît demain chez Albin Michel.
À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global. Nubien, Peul, Mandingue, Songhai, Soso, Akan, Yoruba, Igbo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire.
Donner à voir et à comprendre pour l'une comme pour l'autre, dans ce livre comme dans cette série documentaire. Pourquoi cette histoire, Catherine Kokri-Vidrovitch, reste en grande partie taboue?
Elle n'est plus taboue, plus vraiment taboue nulle part, je dirais, ni en France, sinon pour un certain nombre de gens encore qui ne connaissent pas, ni au Brésil, où elle a été très longtemps taboue, ni en Afrique, où elle a aussi été taboue. Et ça, depuis peu de temps. Depuis, en réalité, le sursaut, ça a été la marche des Français antillais, Français noirs, en 1998, qui a eu un énorme écho du côté des Antillais, qui passait presque inaperçu pour les Français blancs, je dirais, ils ne sont même pas aperçus. Mais en revanche, la loi Taubira, elle, n'est pas passée inaperçue du tout. Et ça a été un déclencheur très fort pour les historiens et les historiennes, dont moi d'ailleurs.
En quoi ?
Mais parce que c'était un sujet qui n'était pas enseigné du tout. Ça, j'avais déjà travaillé un petit peu. Et le fait que dans la loi, l'article premier dit que c'est un crime contre l'humanité, donc tout le monde était d'accord, a priori au démarrage, c'était voté à l'unanimité. Mais l'article 2, pour moi, était très important. Il disait, puisque c'est un crime contre l'humanité, cela doit être enseigné dans les établissements scolaires. Et ça ne l'était pas, sauf s'il y avait une initiative d'un enseignant, puisque ça n'a jamais été, en particulier dans les instructions scolaires, en particulier pour les classes élémentaires. Donc c'était tout à fait nouveau et ça a déclenché effectivement des recherches parce qu'il fallait, ben, il fallait tout bêtement faire des manuels.
Fanny Glissant, l'esclavage a une longue histoire et vous la retracez à travers cette série documentaire, mais c'est aussi une question qui est toujours d'actualité, l'esclavage moderne qui touche une majorité de femmes et qui se pratique encore, notamment en Libye, où une scène de vente aux enchères dans un marché aux esclaves a été filmée l'an passé et mise à jour par une équipe de CNN. C'est une pratique, dit-on, de plus en plus fréquente chez les passeurs, selon l'OIM. Est-ce que cette pratique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esclavage moderne, relève pour vous du même processus?
Alors je pense que nous, ce qui nous a énormément frappé quand on est allé tourner au Mali, donc on est allé tourner dans la région autour de Tombouctou, extrêmement difficile d'aller tourner là-bas avec des consignes de sécurité très importantes, accompagnées par la MINUSMA, mais c'est une région où aujourd'hui il y a encore 2 millions de descendants d'esclaves. Et ce qui est en train de se passer, et on l'a vu avec les associations militantes qui travaillent là-bas, c'est une sorte d'emprise nouvelle, ou en tout cas qui se réactive auprès de ces populations dites dépendantes. On est vraiment dans une société qu'on pourrait dire de caste, ou en tout cas une société d'ordre, et les dominants réappliquent une domination sur leurs dépendants. Voilà, c'est quelque chose qui est très actif, et qui déclenche évidemment l'exil pour les gens qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles.
Je reformule en partie, parce que c'est vrai que dans votre documentaire, il y a des allers-retours fréquents entre le passé et le présent. Est-ce une manière de dire que c'est une question qui n'est toujours pas résolue, voire révolue, ou cette longue histoire de l'esclavage?
Je pense qu'il y a eu des abolitions successives de l'esclavage, par exemple au Mali, en Mauritanie ou au Niger. Et donc c'est bien que cette question est encore active dans ces régions subsahariennes.
Il y a une caractéristique de l'esclavage dans les sociétés africaines anciennes. Comme dans toutes les sociétés anciennes, l'esclavage est une pratique très très ancienne, bien antérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a une caractéristique partagée pour la considération des esclaves. Les esclaves, dans toutes les sociétés où il y a des esclaves, et en particulier dans ces sociétés africaines, n'ont pas de dignité, n'ont pas d'honneur, n'ont pas d'existence, et tout particulièrement, ça c'est Ibrahim Atioub qui l'a très bien expliqué, sont arrachés à leurs ancêtres. Le culte des ancêtres est très important, donc il faut qu'ils soient ailleurs pour ne pas pouvoir retourner dans leur famille, et par conséquent, ils vont léguer à leurs descendants ad vitam aeternam la non-existence des ancêtres. Donc les descendants sont esclaves, étaient esclaves, et sont encore souvent considérés comme esclaves, bien que ça n'existe plus, y compris chez des, dans les classes moyennes, chez les intellectuels, etc. Mais on sait par les noms que la famille descend d'esclaves. Et donc il y a toujours quelque chose qui reste là, et c'était complètement tu, parce que c'était honteux. Et donc les observateurs, y compris les anthropologues ou les ethnologues qui sont venus, sont passés complètement à côté parce que personne n'en parlait. Personne n'en parlait parce qu'on ne pouvait pas en parler, parce que c'est une insulte épouvantable de traiter quelqu'un d'esclave.
Et ce statut d'indignité et ce sentiment d'infériorité intériorisé, c'est ce que racontait notamment devant votre caméra un descendant d'esclaves maliens que vous avez rencontré lors de ce tournage au Mali.
Leur liberté reste fragile. Sans la protection de leurs anciens maîtres, ils vivent souvent dans le dénuement le plus complet. Même dans l'anonymat des grandes villes du Sud, un simple nom de famille peut suffire à trahir l'ascendance d'une personne. Cette difficulté à s'affranchir de sa caste perpétue un ordre social millénaire.
Même si tu es devenu un député, même si tu es député, tu es captif. Même si tu es ministre d'intérêt, tu es captif. On va t'appeler captif. Et tu n'as pas ta dignité chez eux. Tu n'as pas une dignité. Tu n'en as pas.
Le temps a redessiné les frontières des États. mais les grandes routes transsahariennes sont toujours sillonnées par des milliers de Maliens, d'Érythréens, de Soudanais ou de Libyens. Pour fuir la pauvreté et les conflits armés, près de 200 000 subsahariens affluent chaque année vers la Méditerranée. Arrêtés au Caire, ces hommes deviennent des proies faciles pour les trafiquants. La guerre au Sahel a réveillé l'héritage des traites négrières et avec lui réapparaissent des pratiques que l'on espérait révolues.
Extrait du premier épisode diffusé ce soir donc sur Arte. Ce mot dignité, indignité revient extrêmement souvent dans les témoignages que vous avez pu recueillir. C'est vraiment cet héritage-là que vous nous racontez. Il y a plusieurs prises de conscience importantes pour ceux qui ne sont pas aussi spécialistes que vous de cette question à travers cette série. La première d'entre elles, c'est peut-être que l'esclavage n'est pas né dans les champs de coton. Il y a une longue histoire de l'esclavage qui remonte bien avant. Les premiers esclaves, ceux qu'on peut asservir, vous les définissez comme tels, étaient blancs, venus plutôt du Caucase, des Balkans. C'est une traite qui s'est par la suite concentrée sur le seul continent africain. Il y a aussi des mots sur lesquels vous revenez, notamment dans votre ouvrage aussi, Catherine Cochry-Vidrovitch, être esclave, vous définissez ce terme-là comme une condition sociale, un statut, voire une caste. La traite, vous précisez que c'est le commerce des êtres humains qui peuvent être échangés contre des marchandises. L'esclavagisme, vous le présentez comme un ordre productif, ce sont les mots de l'économiste Pierre Dauques. Ceci étant dit, comment sont nées les premières formes d'esclavage? Vous ne les ramenez pas à l'Antiquité, vous les datez un tout petit peu après avec l'effondrement de Rome.
Mais c'est très difficile à dire dans la mesure où il n'y a pas de source. Ce qui me paraît évident, ce qui paraît évident à beaucoup de chercheurs, c'est que l'esclavage est une des formes d'utilisation du travail humain particulièrement ancienne, en particulier dans des sociétés qui n'avaient pas de technologie autre que les bras, et que les outils, ben c'étaient les hommes et les femmes, par conséquent, ils ont été traités comme des outils. Ceci étant, on sait qu'il y avait de l'esclavage, par exemple, avant la grande période des empires arabo-musulmans qui commence au 7e siècle, ne serait-ce que parce que les premiers voyageurs arabes ou berbères ont raconté ce qu'ils ont vu, et ils sont arrivés dans des régions où il y avait des esclaves. Donc on peut supposer que l'esclavage existait partout, que c'était des sociétés où tout le travail n'était pas nécessairement fait par des esclaves, il y avait des dépendants, des domestiques, des gens libres, etc. Mais que l'on passe dans certains cas, ça a été le cas pour l'Empire romain, ça a été le cas dans le sud des États-Unis avec le coton, ça a été le cas en Afrique au XIXe siècle à cause de tous les avatars, à ce qu'on peut appeler une société esclavagiste, c'est-à-dire où tout le travail finalement n'est fait que par les esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps.
Autre prise de conscience importante, la dimension première de l'esclavage est économique, Fanny Glissant. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas saisir l'ampleur du trafic et ses mécanismes. Pourquoi la question économique est à l'origine même de cette traite?
On avait conscience que tout ce qui était, on va dire, problématique victimaire, ou histoire, une vision victimaire de cette histoire, avait dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire, quoi. Et on était conscient aussi qu'une position beaucoup plus culpabilisante de l'esclavage avait aussi porté plusieurs œuvres et plusieurs récits, et on a envie de se départir en avançant sur une position strictement économique.
Quand et non pas ça, sur le plan de la morale, en fait.
Exactement. C'est-à-dire, quand je dis ça, il fallait se départir de la question des droits de l'homme. Parce que la question des droits de l'homme est en fait une question relativement récente. Elle apparaît au moment de la question des libertés individuelles, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et pour comprendre ce phénomène, il fallait se replonger dans la conception de l'époque. Et la conception de l'époque, c'était avant tout une problématique pour nous économique. Ce qui était aussi, on arrivait à un moment, on va dire, précis de l'historiographie, c'était que il y avait beaucoup d'historiens qui avaient décidé de sortir de leur problématique strictement nationale et commencer à échanger avec leurs collègues de par le monde. Et du coup, la question économique devenait centrale et nous permettait d'avoir une vision, je vais dire, global de l'esclavage.
Alors économique, mais aussi politique. D'abord, force motrice des grands empires, la traite va se développer autour des grands carrefours. De Bagdad, elle se déplacera vers le Caire, puis Tombouctou. Et puis, on le voit dans le deuxième épisode de la série, c'est au XIVe siècle que l'Europe entre en scène par le biais du Portugal, qui va ouvrir une nouvelle route de l'esclavage entre l'Europe et le continent africain. Aujourd'hui encore, cette dette, le Portugal a du mal à la reconnaître. Vous le racontez à travers ce monument des découvertes qui est dressé aujourd'hui, où les Portugais glorifient encore leurs héros.
Au Portugal, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a deux temps historiques qui s'entrechoquent. Le monument des découvertes, c'est Salazar, c'est donc la dictature salazariste, qui tout d'un coup veut redonner une place au Portugal en Europe. Mais en même temps, le Portugal est aussi très conscient des liens qu'il a tissés avec l'Afrique. Et je crois que tout Portugais a cette espèce d'histoire mêlée. Et ça se voit un peu partout dans la ville. Et ça se voit aussi, j'ai envie de dire, chez les afrodescendants, comme il y a même ils se reconnaissent pas afrodescendants, puisque certains historiens estiment à 60% la population portugaise qui aurait des origines afrodescendantes.
Quelle route va s'ouvrir ?
Ce qui est particulier aussi dans l'histoire du Portugal, c'est la non-reconnaissance effectivement du passé noir du Portugal. Parce que les Portugais, au XVe siècle, au moment où l'Amérique n'existait pas encore pour les Occidentaux, ils ont importé d'Afrique de l'or, c'était pour ça qu'ils y allaient d'abord, mais de l'or et des esclaves, comme Elie Kiambukuro le dit à un moment dans le film. Qu'est-ce qui a commencé d'abord? Est-ce que c'est l'or, dont on sait qu'il est 5e siècle avant notre ère, il y avait déjà de l'or qui arrivait d'Afrique, ou les esclaves, l'un portant l'autre, si je puis dire, ça a démarré en même temps. Et donc c'est quelque chose de très ancien, mais quand les Portugais sont arrivés, ils ont d'abord importé beaucoup d'esclaves en Europe. Quelque chose comme 150 000 au XVe siècle par Lisbonne, 150 000 au siècle suivant. Au total de toute la durée, probablement 1 million d'esclaves sont arrivés en Europe par le biais essentiellement de Lisbonne, redistribués dans toute l'Europe du Sud, l'Espagne, la France du Sud, l'Italie, et puis également ailleurs, pour faire tous les travaux. Alors, pour faire un peu la même chose que dans les autres sociétés, tous les travaux rebutants. Et en particulier tout ce qui concernait les ordures, les excréments, avec quelque chose qui rapproche un peu cette culture ancienne portugaise des cultures africaines, si on peut dire, c'est la recherche de la pureté du sang, qui était très importante. Par conséquent, beaucoup de ces... comme il y avait beaucoup de... il y avait 10% de la population de Lisbonne était africaine au 15e siècle, en 1500, et beaucoup de descendants étaient métis. Et le souci de l'ensemble de cette population, puisque c'était si honteux d'être noir, c'est qu'il fallait devenir blanc. Donc il y a eu un phénomène de blanchiment très important au nom de la pureté de la race, qui était importante dans la religion et dans les sentiments ibériques, disons. Les Espagnols, c'était la même chose. Donc la négation de l'existence d'ancêtres noirs, d'ancêtres esclaves, s'est poursuivie très tardivement et commence seulement aujourd'hui à être redécouverte par les historiens.
Tout en montrant dans cette série, d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre, comment les esclaves étaient intégrés dans les familles ou plutôt laissés à la marge aussi. Et il y a des qualificatifs contre lesquels vous vous élevez, comme celui d'esclaves domestiques. Pourquoi, en fait, pour ne pas créer des catégories ou donner le sentiment que certaines positions étaient plus confortables que d'autres?
Je crois que c'est ça, je crois que c'est la question du confort, je crois que c'est la question de la douceur de l'esclavage. Pour créer un esclave, il y a de la violence. Je veux dire, la violence est constitutive de l'esclavage. Et du coup, c'était important de retracer l'histoire de cette violence, l'histoire de cette violence intrinsèque. Et ça permettait aussi de retracer l'histoire des révoltes. Parce que derrière l'asservissement, il y a toujours une résistance.
Violence qui a atteint quand même des niveaux aussi inimaginables, ce que vous montrez bien dans le troisième épisode de la série, qui raconte cette histoire du mariage de l'homme et de la canne à sucre, où on voit les prémices du capitalisme se mettre en place, et on va en revenir à cette dimension économique qui est essentielle dans la traite. D'homme à homme, on voit l'utilisation d'une violence absolument sans limite. Hein. C'est dire, puisqu'on revient à cette question de la dignité ou de l'indignité, le regard qui était porté sur les esclaves, qui n'étaient pas des hommes.
Oui, et je crois qu'il y a des notions que le grand public n'a absolument pas. Et pour moi, ce qui raconte la violence du système esclavagiste, c'est de se dire que la durée de vie d'un esclave, à partir du moment où il pose les pieds sur une île des Caraïbes, est entre 7 et 10 ans. Ça raconte bien à quel point on nullitise l'homme pour sa force de travail pure, et peu importe ses conditions de vie.
France Culture, la grande table,
Olivia Jesbert.
13h16 sur France Culture, traite et esclavage, quelles origines, quelles mémoires et quelles conséquences encore aujourd'hui. 17 ans après la loi Taubira, elles ont choisi de décentrer les regards en donnant la parole à des spécialistes du monde entier. Avec nous encore un quart d'heure, la réalisatrice Fanny Glissant et la conseillère historique Catherine Kokri-Vidrovitch de la série documentaire Les routes de l'esclavage. 4 volets diffusés ce soir sur Arte et dès demain sur France O. La traite aux origines de la mondialisation et du capitalisme, un système qui a permis à de nombreuses grandes entreprises de prospérer. Extrait de l'épisode 3.
Si les chiffres de la déportation ont été clairement établis par David Eltis et l'équipe de recherche d'Emory University, ceux des revenus générés par la traite sont toujours en cours d'estimation. Les historiens tentent encore aujourd'hui d'évaluer les profits que les banques et les assurances ont tirés du commerce d'esclaves.
L'esclavage n'est pas uniquement l'un des fondements du capitalisme américain. C'est aussi l'un des fondements du capitalisme européen et atlantique, parce qu'il a créé ce système économique extrêmement rentable qui reliait les pays d'Europe du Nord-Ouest aux Amériques à travers le système des plantations. L'intellectuel et militant de renom C.L.R. James a montré que l'esclavage avait engendré la plus grande accumulation de richesses encore jamais vue à l'époque. Ce qui explique en grande partie la prospérité du monde occidental.
Quand on voit comment cette traite a aussi contribué à l'industrialisation de l'Europe, à sa prospérité économique, comment des banques, des compagnies d'assurance ont aussi accumulé d'incroyables bénéfices à travers tout cela, est-ce qu'il ne faudrait pas rouvrir une fois encore le dossier des réparations, Fanny Glissant?
Je pense qu'il y a des historiens qui s'attellent justement à parler d'abord de la question des indemnités, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée dans ce documentaire, et j'en suis malheureuse, mais parfois par faute de temps on fait des grandes ellipses comme ça, mais c'est la question des indemnités faites aux propriétaires d'esclaves. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a environ 48 millions de livres sterling or qui ont été donnés aux propriétaires d'esclaves, aux 47 000 propriétaires d'esclaves en Grande-Bretagne, et qu'il y a 26 millions de francs or qui ont été donnés aux propriétaires d'esclaves au moment de l'abolition de l'esclavage en France. Pour la Grande-Bretagne, ça représente l'équivalent de ce qui a été donné aux banques en 2008. Donc la question économique, elle est centrale dans cette espèce de passage de système quand les grandes nations européennes décident d'abolir et d'abandonner l'esclavage. Voilà. Et cet argent a été massivement réinvesti dans la révolution industrielle qui était en train de se mettre en place autour de 1870.
Ce qui est extraordinairement paradoxal, c'est que non seulement la traite elle-même et le sucre a rapporté beaucoup à l'Occident, mais paradoxalement, l'indemnisation exigée pour les propriétaires a permis à ces propriétaires, en particulier les Britanniques, qui étaient déjà très engagés dans la révolution industrielle, d'investir dans les banques, dans l'industrie, c'est-à-dire que ces sommes que Fanny vient d'énumérer, qui étaient extrêmement importantes, ont fait partie des capitaux utilisés pour l'industrialisation et la modernisation du capitalisme occidental.
Mais pourquoi cette question, ce dossier donc des réparations, alors d'État à État ou d'entreprise à des familles ou là encore à des populations n'a jamais abouti jusqu'ici?
Je crois que d'abord il faut reprendre l'histoire des réparations dans une histoire plus longue, c'est-à-dire que dès le 18e siècle, la question des réparations est présente dans différents procès que des esclaves intentent à leurs anciens maîtres. Dès 1783, si je me souviens bien, voilà, il y a un procès à Washington où une esclave libérée demande réparation à son maître. Cette question-là, elle est portée au moment des droits civiques, elle est portée en France aussi par des anciens esclaves qui vont se battre et qui vont utiliser la loi pour combattre justement cette notion de droit commercial versus droits fondamentaux humains. Le fait que des grandes entreprises comme la Lloyd's et massivement investi et supporté l'esclavage, en tout cas dans cette structure et ses infrastructures. Fait qu'aujourd'hui, oui, il y a toute une série de class action qui ont été mises en place aux États-Unis, au Brésil, principalement, pour essayer de, voilà, d'avoir réparation du travail gratuit qui avait été fait pendant de nombreuses années par cette population servile.
Catherine Kokrividorovitch, comment expliquer ce double mouvement, cette double presque tectonique des plaques qui va se jouer à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, qui va montrer à la fois une humanité en tension, c'est-à-dire prise entre deux courants, ce qui semblait acquis jusqu'ici va commencer à faire l'objet de contestations à travers la progression du courant abolitionniste et en même temps sur d'autres aires géographiques et notamment au Brésil que vous évoquiez ou aux États-Unis, question de l'esclavage qui n'est pas remise en question ou qui l'est beaucoup plus difficilement. Comment vont, où est-ce que les premières voix vont s'élever et à quel temps ça va mettre avant de toucher l'ensemble du globe?
Ben, les premières voix qui s'élèvent, c'est en Grande-Bretagne, c'est en Angleterre, où finalement, à part dans les ports côtiers, à part Liverpool et quelques autres grands ports, les Britanniques pouvaient investir dans le commerce négrier sans voir d'esclaves, parce que les esclaves allaient d'Afrique aux Amériques, mais il y en avait quand même une minorité qui passait par l'Europe. Donc c'était assez facile d'ignorer ce qui se passait vraiment. Jusqu'au moment où vous avez eu un courant abolitionniste qui se développe, d'abord chez les Quakers américains, puis ensuite tout au long du XVIIIe siècle, chez certains religieux. Alors, ils n'ont pas tout fait, bien entendu, ça correspondait aussi à l'esprit du temps, mais ils font connaître quelques scandales particulièrement monstrueux, qui étaient très bien connus aux Amériques, où on était habitués, mais qui n'étaient pas connus de l'opinion publique britannique. Et vous avez, à la fin du XVIIIe siècle, un éveil de l'opinion publique britannique qui dit « ben, c'est pas bien ». Et qui va influencer les révolutionnaires, les premiers révolutionnaires français avec l'association des Amis des Noirs, CIS, en 1788. Et de là, ça n'est pas ce mouvement qui a contribué à tout faire, en particulier à supprimer la traite des esclaves. Vous avez la révolution de Haïti, qui a été fondamentale, parce que Haïti donne naissance au premier État noir moderne en 1804, dans un univers des Caraïbes où partout ailleurs vous avez toujours l'esclavage. Et c'est un élément qui probablement est un des facteurs explicatifs de la rapidité de la Grande-Bretagne à supprimer, à interdire le trafic des esclaves, le commerce des esclaves, ce qu'on appelle la traite des esclaves, dès 1808. Parce que on est à la fin des guerres napoléoniennes, parce qu'il y a Haïti qui est une menace effectivement terrifiante pour tous les planteurs, et parce que la Grande-Bretagne a déjà commencé un peu sa révolution industrielle, donc elle a compris qu'il fallait aussi passer à autre chose. Les autres États sucriers ont mis beaucoup plus de temps.
Et la France, Fanny Glissant?
La position de la France au moment de l'abolition, elle est particulière, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette injonction à l'oubli. Alors, il est plus facile de pardonner quand on est du côté des maîtres que quand on est du côté des esclaves, à mon avis. C'est plus facile. Mais dans la réalité et dans les faits, c'est surtout, moi je peux me permettre de le dire, une sorte d'abolition de façade, parce que les esclaves sont cantonnés aux mêmes plantations et font le même travail et ils ont un salaire de fortune qui leur est donné, qu'ils doivent dépenser dans ce qu'on appelle les magasins, qui sont les magasins de la plantation, et payer un loyer à leurs anciens maîtres, ce qui fait qu'à la fin de leur mois de travail, ils se retrouvent en fait avec zéro. Ils ont absolument aucune possibilité de se déplacer, puisqu'il y a ils doivent absolument avoir ce qu'on appelle un livret de travail, sinon ils sont accusés de vagabondage. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que ça a perduré, et ça a perduré jusque dans les années 60 et les années 70, ces conditions de travail, ouais.
Oui. Comment mesurer aujourd'hui, Catherine Kokrividorovitch, les conséquences encore de cette traite? Vous l'écrivez, c'est la traite qui a engendré le racisme et pas l'inverse. Ça, c'est la première chose qu'on peut souligner, cette question du racisme qui est née aussi de toute cette histoire.
Oui, et en particulier qui est née de l'esclavage noir, parce que vous avez dit tout à fait justement au début qu'il y a eu toujours de l'esclavage, mais que la très grande majorité des esclaves venaient plutôt du nord, d'Eurasie, ils étaient blancs. Et ce sont les arabo-musulmans, les berbères, qui ont introduit la traite des esclaves africains. Mais il y avait beaucoup d'autres esclaves venant de beaucoup d'autres endroits dans les empires très importants du Moyen-Âge arabo-musulman. La spécificité du commerce atlantique, c'est qu'à partir du début du XVIIe siècle, on a totalement identifié la couleur et l'esclavage. Un noir ne pouvait être qu'esclave parce qu'il ne valait rien. Et tout esclave était noir, il n'était pas question qu'un autre. Et ça, c'est la naissance du racisme anti-noir, véritablement. C'est là que va commencer à se fabriquer ces sentiments qui vont encore s'accentuer au XIXe siècle, dans la mesure où on supprime l'esclavage. Donc on ne peut plus dire que le noir est inférieur parce qu'il est esclave, il n'est plus esclave. Alors pourquoi est-ce qu'il est inférieur? Eh bien, on va inventer le racisme scientifique, entre guillemets. Il est inférieur parce qu'il y a des races différentes, que la race blanche est supérieure et la race noire est inférieure. Ça, c'est une invention, je dirais, qui apparaît à la fin du XVIIIe et qui est une création du XIXe siècle et qui va se prolonger assez largement dans la première moitié du XXe siècle, évidemment, bien que les généticiens, dans les années 1920, dans le secret de leur laboratoire, aient démontré que l'espèce humaine était une, que les races c'était une invention ou une fabrication, évidemment, et que cette théorie qui soulageait bien quand même le monde blanc de la fin du XIXe siècle était une théorie fausse. Mais avant que ça ne passe dans l'opinion, ça met beaucoup, beaucoup de temps tout au long du XXe siècle.
L'esclavage, source de nombreux maux encore aujourd'hui, source du racisme actuel, d'une criante actualité, dit l'un de vos interlocuteurs dans cette série documentaire, Fanny Glissant. Vous ajoutez, Catherine Cochry-Vidrovitch, dans cet ouvrage « Apparaître demain, les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines ». La traite a aussi créé au fil des siècles des conditions d'insécurité généralisées. Dans la plupart des régions d'Afrique subsaharienne, cela favorise le manque de confiance de chacun envers chacun, une guerre de tous contre tous, pouvant entraver la mise en place d'institutions solides et générant une méfiance considérable des populations. On terminera avec vous, Fanny Glissant, et une question d'actualité. Colère noire, fierté noire, vous avez dit vouloir mettre en avant aujourd'hui aussi, pas simplement un point de vue de victime, ne pas tomber dans cette victimisation, mais montrer au contraire qu'il y a aussi tout un patrimoine culturel qui a pu se transmettre au fil de ces années. Est-ce que vous avez l'impression que cette page interminable de l'histoire qu'est l'esclavage peut encore nous aider à comprendre ce qui se joue dans les relations sociales aujourd'hui?
C'est un peu une sorte de communauté étrange, mais je reviendrai sur le fait que, par exemple, je suis descendante d'esclaves. Je suis descendante d'esclaves. Mes aïeux appartenaient au sieur Pin, qui était un planteur de la Désirade, une petite île de l'archipel de la Guadeloupe. Il se trouve qu'il a aussi, dans le même temps, aboli son fils naturel, qui se trouve être aussi mon ancêtre. Donc il est assez difficile pour moi de pas me dire que ça n'a pas construit quelque chose, en tout cas, de résilient, puisque je suis là aujourd'hui à vous parler et que j'ai envie d'embrasser cette histoire. Donc c'est bien que ça aussi produit de la relation. Après, sur la notion de question noire, pour moi, cette question noire, elle se construit à partir du moment où il y a une position blanche. Je ne crois pas que la question des subsahariens soit la même que la question des afro-descendants caribéens, que la même que des afro-brésiliens, que la même des... je crois qu'il y a des spécificités, que ces spécificités racontent la pluralité du monde, et qu'en fait, à partir du moment où on peut observer cette pluralité du monde, la comprendre comme étant notre histoire, à tous, pas juste aux descendants de maîtres et pas juste aux descendants d'esclaves. Je crois qu'on est en train de réfléchir une société justement moins conflictuelle et qui mettra un terme à cette mondialisation de la violence qu'a été l'esclavage.
Merci beaucoup à vous, Fanny Glissant. Une série en 4 épisodes des routes de l'esclavage qui sera diffusée à partir de ce soir sur Arte et puis visible en replay pendant encore longtemps. Merci 1000 fois à vous, Catherine Cochry-Vidrovitch. Je rappelle que les routes de l'esclavage, votre nouvel ouvrage en lien avec cette série documentaire, paraîtra demain chez Albin Michel. Merci. Émission à réécouter ou à podcaster sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la réalisation aujourd'hui Perret Legras avec Emmanuel Morse d'un camp. Un petit brin de muguet pour vous tous et puis un bon 1er mai. Rendez-vous demain à midi avec une nouvelle Grande Table, le réalisateur Philippe Faucon dans la première partie de l'émission des midis et le philosophe Heinz Wiesmann et Raphaël Glucksmann pour la deuxième partie de l'émission. Nous vous parlerons Europe en langue européenne. Pour l'heure, il est 13h30 sur France Culture, les pieds sur terre.